Merci de nous recevoir ce jeudi 19 octobre 2023 pour le journal de 17h. Au micro, je suis Rukayat Abdrahman. Au sommaire, aujourd'hui 19 octobre 2023, c'est la journée mondiale contre le cancer du sein. Comment faire l'autopalpation en vue d'un dépistage? La réponse dans un instant. Les forces de l'ordre accentuent les efforts pour renforcer la situation sécuritaire à Diffa. À suivre les détails dans ce journal. La partie magazine de cette édition est consacrée à l'exploitation du bois de chauffe dans le village de Marbouna Sanké, dans la région de Dosso. Bonsoir à tous et bienvenue. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, nous nous sommes rendus au siège de l'ONG SOS Cancer afin de permettre à la population de bien comprendre cette maladie qui fait beaucoup de victimes chez la femme. Comment la femme doit procéder pour faire l'autopalpation? Madame Bachir Leila Rabo, médecin responsable médical à SOS Cancer au Niger, nous donne plus de précisions au micro de Leila Nuhu.
Les signes d'un cancer du sein sont entre autres l'apparition d'une masse au niveau du sein de la glande mammaire. Donc on peut dire une boule. Une patiente qui elle va palper son sein, elle va sentir l'apparition d'une masse. Ça peut être également un écoulement anormal, pouvant être du sang ou bien avec une coloration verdâtre. Donc tous ces signes doivent alerter toute femme à venir se faire dépister à temps pour pouvoir éviter le cancer du sein. Il faut qu'elle fasse ça en période post-menstruelle, après les règles. Elle peut se placer devant son miroir une fois par mois. Elle lève un peu son bras, elle pose sur la tête pour faire un angle droit. L'autre main, elle essaie de faire des mouvements de palpation sur le sein, des mouvements circulaires en tapotant doucement le sein à la recherche d'une anomalie, c'est-à-dire une boule. Ça, c'est à la palpation. Un écoulement. Elle arrive à pincer le mamelon un tout petit peu pour voir s'il y a un écoulement qui sort. Si elle arrive à faire ça une fois par mois, elle saura s'il y a une anomalie ou pas.
Assurer la sécurité et renforcer la paix et la quiétude sociale, tels sont les objectifs des forces de l'ordre à Diffa. En effet, des patrouilles sont organisées nuit et jour pour que la ville de Diffa, dans la ville de Diffa, afin de permettre à la population de vaquer normalement à ses occupations. Il est cependant important, selon un des responsables sécuritaires de la région, que la population collabore pour mettre les bandits hors d'état de nuire, suivant ses explications.
Pour amener la sécurité dans la ville de Diffa, on fait des patrouilles mixtes avec tous les corps qui sont ici dans la commune de Diffa. Les patrouilles, c'est toujours, et c'est jour et nuit. On a des postes de police un peu partout, ou bien dans certains quartiers sensibles dans la commune urbaine de Diffa. Encore, on fait des rafles dans certains quartiers là où il y a des bandits. On mène une enquête et on fait des rafles là-bas pour capturer des malfaiteurs. Le problème qu'on rencontre, la population, certains collaborent et d'autres ne collaborent pas. Et encore, il y a des parents des enfants et aussi, et ils chérissent beaucoup leurs enfants, puisque si on met main sur leurs enfants, ils font tout pour libérer leurs enfants. Donc, on a besoin de leur collaboration, d'être très vigilants encore, de nous donner la bonne information à temps.
Autre aspect de ce journal, les adeptes animistes de Gaïa ont organisé une cérémonie. Objectif, implorer le soutien des forces spirituelles pour la paix et la sécurité dans tout le Niger. Quelques participants s'expriment au micro de Fadel Alou.
Cette cérémonie de culte animiste est organisée d'abord pour exaucer les esprits, pour protéger le pays. C'est pour l'ensemble du pays, et ce par rapport aux informations qui circulent faisant état d'une éventuelle agression de notre pays. Et nous demandons aux esprits de protéger le pays pour que cela n'arrive pas. Donc c'est cette cérémonie que nous organisons ici sur la piste de l'aéroport de Gaïa à travers les rites pour que le Niger soit en paix. Nous ne voulons pas du mal à qui que ce soit, mais tout celui qui a l'intention d'agresser notre pays, eh bien, son intention lui retournera. Les pays voisins, ce sont nos parents. Par conséquent, nous ne voulons pas qu'il y ait la guerre entre nous. Nous ne voulons que la paix entre nous. C'est pour cela que nous avons organisé cette cérémonie de culte animiste.
La direction départementale de la douane de Ménessoroa a saisi une grande quantité de chanvre indien qui est estimée à plus de 404 briques, soit 200 kg, au niveau du poste frontalier du Nigeria. Pour plus de détails, suivant Hassan Hamani, capitaine de douane, il est au micro de Mama Idrissa.
On les a interceptés entre la frontière avec Difa, au sud de Ménessoroa. Lors d'une mission parallèle, sur le chemin de retour, on a croisé une voiture. Le chauffeur a accéléré. On s'est posé la question sur les occupants et qui cherchent-ils à nous cacher. Ils ont voulu fuir, mais on les a coincés. On a conduit les occupants et la voiture à la direction des douanes. La voiture transportait 8 sacs de chambre indien. Il y a près de 404 sachets. Un sachet pèse 500 grammes, soit un demi-kilo. Le tout fait près de 200 kg. Notre première satisfaction est qu'on a pu empêcher la désolation à notre pays. Partout où les forces de l'ordre travaillent, que Dieu les assiste.
Renforcement des capacités des chefs traditionnels et des magistrats d'Agadez sur leurs attributions légales et leur rôle en matière de conciliation et de gestion des conflits. Organisé par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration territoriale, avec l'appui du programme d'appui à la gouvernance démocratique PAGOD, des précisions avec Zabey El-Hajj Ibro, secrétaire général des affaires politiques et judiciaires au ministère de l'Intérieur, il est au micro d'Anissé Karim.
Les chefs traditionnels jouent un rôle clé dans nos communautés à la base. Les présidents des tribunaux d'instance représentent la justice la plus proche des citoyens et ils ont des attributions en matière coutumière, des questions qui intéressent vraiment les populations à la base. L'objectif visé, c'est d'échanger avec les chefs traditionnels et les magistrats par rapport aux attributions et au rôle de la chefferie traditionnelle en matière de conciliation et de gestion de conflits. Comme vous le savez, notre pays fait face à plusieurs défis, sécuritaires, des défis liés à des sanctions économiques qui nécessitent une cohésion sociale et que les uns et les autres aient suffisamment contribué à travers des propositions qui nous permettent d'améliorer tant les dispositifs législatifs et réglementaires que la collaboration entre justice et chefferie traditionnelle pour une efficacité plus grande de leurs missions respectives.
Depuis les sanctions infligées au Niger par la CDAO, l'UEMOA et certains acteurs au développement, l'on assiste à la hausse des prix de certains produits de première nécessité. À Zander, des dispositions ont été prises par les services de la direction régionale du commerce en vue de la stabilisation des prix et de la disponibilité des produits. Notre correspondant Ali Keita s'est entretenu avec Mamarabiou Yahaya, directeur régional du commerce.
Collecte les informations au niveau des grossistes de la ville de Zander et au niveau des détails. Si on compare la situation entre le 8 octobre et le 13 octobre, on constate qu'il y a un certain nombre de produits pour lesquels le stock a connu une augmentation. Il s'agit donc du maïs, de la farine de blé, des pâtes alimentaires, du lait en poudre, du sucre en morceaux, de l'huile, de la tomate, du café, du thé. Maintenant, il faut rappeler aussi que parmi les 29 produits que nous suivons sur le marché de la ville de Zander, il y a le stock de mil, du sorgho, du nevé blanc et rouge, du ciment, du savon, qui sont restés inchangés entre le 8 octobre et le 13 octobre. Maintenant, ces baisses sont trop faibles. Ça n'a pas influencé le prix entre le 8 octobre et le 13 octobre. C'est seulement le prix du sachet du thé fardeau qui a baissé de 25 francs.
Depuis quelques jours, on constate un changement de température caractérisé par une légère fraîcheur le matin, une chaleur piquante l'après-midi sur la ville de Niamey et environ. Alors, qu'est-ce qui explique cette variation de température? Pour plus de précisions, suivons Kachella Olawangaptia, directeur du service de la météorologie nationale, il est au micro de Hawa Ousmane.
Ce changement de temps est dû au fait que nous sommes dans une phase transitoire de la fin de la saison pour rentrer dans la période dite période sèche. C'est l'armata qui est en train de s'installer au dépens de la mousson qui est repoussée maintenant vers le sud. C'est vraiment une phase transitoire de fin de saison. Et nous entrons maintenant de plein pied donc à la période sèche. Et donc à cette période, la voie venue avec quelques coups de vent, la poussière, et c'est ça, c'est caractéristique. Mais on assistera à une petite période de chaleur actuellement. Même si pendant les nuits, et les matinées, on peut ressentir un peu de fraîcheur. Mais essentiellement, la journée, on va avoir vraiment du soleil avec donc des températures assez élevées qui souvent pourraient aller jusqu'à plus de 40 degrés. Cette petite période de chaleur va durer pratiquement jusqu'à la mi-décembre.
Parlons santé à présent. Qu'est-ce que la constipation ? On parle de constipation lorsque les selles ne progressent pas suffisamment et rapidement dans le côlon, une situation fréquente chez certaines personnes. Comment se manifeste-t-elle ? Qu'est-ce qui la provoque ? Élément de réponse avec Sani Alhassan, point focal nutrition de la Direction régionale de la santé publique de Diffa au micro de Mani Moussa.
Il y a un temps pour la digestion des différents aliments. Si ce temps-là est pris prolongé, donc ça peut maintenant conduire à une constipation. La constipation se reconnaît le plus souvent quand la personne se sent un peu ballonnée. La personne n'arrive pas à rôter ou alors quand elle rôte aussi, c'est à des répétitions. Les aliments qui sont à l'origine le plus souvent sont les aliments qui sont riches en protéines. Il y a deux types d'aliments qui sont riches en protéines. Il y a les aliments d'origine animale. Il y a d'autres aliments d'origine végétale aussi qui contiennent des protéines dont nous appelons les légumineuses. Ce sont la famille des haricots, ce sont les soja. Ce qui est recommandé, il faut prendre régulièrement de l'eau pour pouvoir un peu dénouer la mécanique. Si ça devient répétitif, là maintenant il faut chercher. Peut-être qu'il y a un autre problème ailleurs, un autre problème médical que nutritionnel.
Bienvenue à tous dans la partie magazine de cette édition. L'exploitation, le suivi et le contrôle du bois de chauffe font partie des activités des populations du village de Marguna Sanke dans la commune rurale de Golay, région de Dosso. Cette activité permet aux acteurs intervenants de l'exploitation du bois de chauffe de subvenir pleinement aux besoins de leur famille, explique un des acteurs de la filière, Hamid Seyni. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
Comment êtes-vous approvisionné en bois ici?
Vraiment, ce sont les populations des villages environnants qui nous fournissent du bois. Nous revendons ce bois aux gens venus de la ville. Les revendeurs de Niamey viennent acheter également.
Qui sont ces villageois?
Quand je parle des populations des villages environnants, je fais allusion à des villages comme Gyeouya, Hainikwekwara, Tibi, Margoun, etc. Ce sont les populations de ces villages qui nous amènent le bois.
Cette activité vous rapporte-t-elle?
Vraiment, nous tirons un grand profit à travers l'exploitation du bois. Ceux qui nous approvisionnent en profitent également. Nous traversons une période très difficile en ce moment. Ceux qui nous approvisionnent profitent pour acheter à manger. Nous aussi, pour subvenir à nos besoins, nous assistons aussi les autres qui, à leur tour, nous apportent du bois.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez?
Vraiment, nous ne rencontrons aucune difficulté. Avant, il y avait vraiment des difficultés, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Avant, ce sont les agents des eaux et forêts qui maintenaient la pression contre les exploitants du bois, mais aujourd'hui, ça va.
Est-ce que les forestiers vous sensibilisent sur l'exploitation du bois?
Vraiment, les agents des eaux et forêts nous sensibilisent à travers l'exploitation du bois. Ils nous ont toujours attiré l'attention sur la préservation de l'environnement et les forêts, parce que nous sommes les premiers bénéficiaires, et c'est vrai. Ils nous ont même fourni des documents. Ils nous ont même promis des permis d'exploitation. Et nous y sommes vraiment reconnaissants.
Ils vous montrent le type de bois à ne pas couper?
Absolument. Ils nous ont déconseillé vraiment d'abattre surtout les arbres fruitiers et les espèces protégées. Nous aussi, nous avons pris l'engagement de respecter cette décision. Nous conseillons également les uns et les autres de ne pas surtout abattre les gros arbres et les arbustes. Nous sommes vraiment fiers de ces conseils qui sont assez révélateurs aujourd'hui.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'édition en tamajek avec Tanan Foudé Hamed.